Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme préparé pour vous par la rédaction française de Radio Prague. Dans sa rubrique littéraire, aujourd'hui, Václav Richter vous présentera trois ouvrages et trois auteurs qui ont reçu cette semaine les prix Magnesia Litera, distinction décernée chaque année au meilleur livre tchèque de tous les genres. Mais avant cela, place aux arts de la scène avec un nouvel opéra sur la création du gigantesque monument à Staline.
Culture sans frontières.
Srdce Stalinovo.
Le destin tragique de l'auteur de la statue monumentale dédiée à Staline, qui a dominé Prague entre 1955 et 1962, a inspiré une nouvelle création de l'opéra du Théâtre national de Prague. Le sculpteur Otakar Švets n'était pas un communiste acharné. Pourtant, c'était bel et bien lui qui avait remporté le concours pour la construction du monument organisé à l'occasion du 70e anniversaire du leader soviétique. Un concours qu'Otakar Švets n'avait aucune ambition de remporter, comme nous le raconte l'assistant du metteur en scène Lukáš Jiříčka.
To, že Otakar Švec jako vlastně avantgardní sochař, že jo, který vlastně měl své kořeny, jako by svou estetiku úplně někde.
Otakar Švec était partisan du mouvement d'avant-garde. Son langage esthétique était très éloigné de l'art officiel de l'époque. Par un curieux concours de circonstances, il s'est vu obligé de créer une œuvre qu'il n'avait aucune envie de réaliser, qui était aux antipodes de sa création. Mais en même temps, la réalisation de ce monument entre en quelque sorte dans la logique des mouvements tels que l'avant-garde, le surréalisme ou le dadaïsme. Ces courants artistiques voulaient toujours se distinguer du passé, brûler tous les ponts.
Le 1er mai 1955, 2 ans après la mort de Staline, en mars 1953, le monument est inauguré sur la colline de l'Etna. Le sculpteur Otakar Švets se suicide peu avant l'inauguration de son œuvre. Les raisons de ce geste sont multiples, le suicide de son épouse survenu un an plus tôt et la pression des autorités en sont vraisemblablement les principales causes. L'opéra intitulé Žádný člověk, littéralement aucun homme, a été créé par le compositeur Jiří Kadeřábek, la metteuse en scène Katarina Schmidt et Lukáš Jiříčka. Il est programmé pour le 17 avril, le 1er et le 7 mai prochains. Le spectacle a plusieurs particularités. Par exemple, le public est installé sur une partie surélevée de la scène, disposant de 150 places. À noter aussi qu'une maquette de la monumentale statue de Staline apparaît sur scène. Cette même maquette qui a été construite au printemps dernier sur la colline de l'Etna en raison du tournage d'un long métrage consacré lui aussi à la vie de Otakar Švets et de son épouse Vlasta. Rappelons enfin que la plus grande statue du dictateur soviétique en Europe de l'Est a été détruite en 1962 en raison de la condamnation du culte de la personnalité et remplacée par un métronome après la révolution de velours. Le meilleur de la danse tchèque contemporaine est à voir actuellement sur 7 scènes pragoises dans le cadre du festival Plateforme de la danse tchèque. Le festival se terminera ce dimanche 9 avril par la remise des récompenses dans les catégories du meilleur spectacle et meilleur danseur et danseuse de l'année écoulée, ainsi que du prix du design lumière ou encore du prix des spectateurs. Des compagnies renommées sont à l'affiche, à savoir Verte Danse, Messa ou Cirque Laputica. La plateforme de la danse tchèque est un prélude du plus important festival de danse contemporaine du pays, Tanec Praha, Prague Danse, dont la 29e édition aura lieu en juin prochain. Fondatrice juste après la chute du communisme du festival Tanec Praha et organisatrice de la plateforme de la danse tchèque, Ivona Kreutzmanová a fait venir en République tchèque une pléiade de solistes et de compagnies mondialement connues, telles que Maggie Marin, Marie Chouinard, Mikhail Baryshnikov ou encore la troupe troupe taïwanaise Cloud Gate Dance Theatre. Nommé chevalier de l'Ordre national du mérite en 2003, Ivona Kreutzmanova a aussi été pendant un certain temps directrice artistique du projet Plzeň Capitale culturelle de l'Europe en 2015. Il y a quelques années, elle est revenue au micro de Radio Prague sur les débuts de la danse moderne dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Nous vous proposons de réécouter cet entretien. Nous nous sommes déplacés au théâtre Ponet à Prague et nous y retrouvons sa directrice, Ivona Kreutzmanova. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez en fait fondé ce théâtre au milieu des années 90. À l'époque, le bâtiment était en ruine et vous l'avez choisi pour y aménager le premier théâtre de la première scène de danse contemporaine à Prague, peut-être même en République tchèque. Pourquoi avoir choisi cet endroit-là?
Bon, en tout cas, la danse contemporaine n'était pas présente en République tchèque, disons, à partir de la fin des années 30. Jusqu'à la fin des années 80. Alors, c'est moitié du siècle qu'on n'a pas eu la chance d'avoir le développement de ce genre énormément fascinant. Et je me suis dit qu'il faut déjà trouver les conditions comme il faut pour la danse contemporaine en Tchéquie. Et c'était pas facile. J'ai essayé 400 espaces différents. Sans succès, parce que personne ne s'en occupait, parce que c'était la discipline artistique qui n'était pas connue chez nous. Et finalement, quand j'ai réussi dans cette compétition publique du quartier de Prague 3, qui a donné cet édifice à l'utilisation culturelle, je me suis dit, mais c'est la chance comme il faut, et il faut trouver de l'argent, des moyens pour reconstruire un bâtiment qui était dès le début une usine métallurgique à partir de 1888. Et puis ça s'est changé pour le cinéma en 1910. Et c'était M. Ponetz, František Ponetz, qui l'a fait. Et je pense que cette utilisation culturelle, c'était ça qu'il a fallu à reprendre pour cet édifice qui a quand même gagné Uslotsi très fort. Et ça m'a pris 3 ans de trouver d'argent, faire la reconstruction. Et en 2001, on a ouvert le théâtre Ponetz comme le théâtre de la danse. Disons, jusqu'à ce moment, c'est un seul théâtre professionnel qui s'occupe de la danse contemporaine.
Votre passion pour la danse date depuis quand?
J'étais danseuse dans les années 80, mais c'était la période sous l'ancien régime et on n'a pas pu faire la danse contemporaine au niveau professionnel.
Après... Il y avait quand même des tentatives, non?
Oui.
Pavel Schmock, par exemple.
Oui, mais Pavel, il a quand même utilisé la technique classique pour sa danse plutôt néoclassique. Mais à ce temps-là, c'était super moderne, bien sûr, ici dans le contexte tchèque. Mais pour moi, ce qui m'a attiré, c'était les grandes personnalités de la danse américaine, comme Martha Graham, Merce Cunningham, José Limón. Et on n'a pas eu la chance de l'étudier ici. Alors je me suis dit, je suis sortie en France tout de suite en 90-91, après la chute du mur de Berlin. Et je me suis dit, une seule chose, comment je peux aider au développement de la danse contemporaine, c'est d'inviter à Prague les grandes personnalités. On a commencé avec Maggie Marin, des grandes programmations, le théâtre de Genève, etc., et présenter qu'est-ce qui se passe dans tout le monde, surtout en Europe, et puis lentement essayer à construire les conditions comme il faut pour la danse domestique.
Et au niveau donc de la danse contemporaine, comment ça s'est passé sous le communisme? Comment vous avez pu quand même être au courant un peu de ce qui se passe à l'Occident? Et pourquoi en fait le régime n'était pas favorable à ce domaine-là de l'art? C'était uniquement l'aversion envers tout ce qui venait de l'Occident?
D'une côté, on a eu toujours de la chance avec les instituts culturels comme l'Institut français de Prague, l'ambassade des États-Unis à Prague, qui ont donné les émissions des films, les projections des films de danse qui nous ont énormément attirés. On a eu plusieurs sources d'informations un peu secrètes. Le régime n'a pas du tout donné la chance au développement des arts contemporains comme il faut, parce que, surtout dans le domaine de la danse, on donne beaucoup d'espace à l'individu. C'est-à-dire, c'est pas comme l'école russe classique où chacun est le même, doit être le même, c'est pas la discipline de cette technique, mais c'est le développement d'individus, d'individualité. Et c'est quelque chose que le régime n'a pas voulu, bien sûr. Et c'est la même chose dans les autres disciplines artistiques. Et de mon avis, c'est la raison la plus forte pourquoi le régime communiste n'a pas voulu donner les conditions pour ce développement. La danse classique, surtout l'école russe, et la danse folklore, c'était tout qu'ils ont laissé passer.
Quand on voit les spectacles qui se font aujourd'hui chez nous, en Europe, dans le monde entier, on a l'impression que c'est déjà parfois à la limite de notre imagination, à la limite des possibilités physiques, humaines. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer aujourd'hui dans la danse contemporaine? Comment ça évolue?
Ça évolue énormément parce que c'est pas seulement la question des limites du corps qui sont toujours à poser. C'est vrai que on est fasciné par la créativité d'artistes qui peuvent vraiment changer votre point de vue à ça que le corps peut faire. Et on le verra de nouveau cette année. Mais l'autre question, ce sont les nouvelles technologies, l'entrée de ce monde digital, disons, sur scène. Ça peut donner les effets énormément fortes et fascinants, mais ça peut aussi donner un peu moins de dimension humaine, que je trouve très important dans les arts vivants. Et je suis toujours en discussion avec mes collègues partout en Europe et au monde. Qu'est-ce que ça donne si je vais au Japon et je vois toutes les technologies, mais c'est un peu froid pour moi, toujours. Je me dis, est-ce que notre cœur de centre d'Europe n'est pas plus fort pour toucher les spectateurs et pour voir que la dimension humaine doit toujours être présente, parce que nous avons les technologies partout, nous avons les nouvelles technologies avec nos iPhones, mobile phones, iPod, je ne sais pas quoi. On a toujours les nouvelles technologies pour la télévision et je ne sais pas, vie et quoi d'autre. Et à côté de ça, ça s'est disparu un peu, cette dimension humaine, relation face à face. Et je le trouve important. Et pour moi, c'est le rôle du théâtre de garder le cœur et la relation humaine.
C'était Ivona Kreutzmanova, directrice du Festival international Tanec Praha, Prague Danse, dont la nouvelle édition se déroulera du 28 mai au 28 juin prochain. La programmation et les réservations au www.tanecpraha.cz. Place maintenant au prix du livre 2016, décerné voilà quelques jours à Prague. C'est avec Václav Richter.
Rencontre littéraire.
Nous désirons aider ceux qui s'intéressent aux livres à s'orienter dans la production littéraire actuelle et éveiller l'intérêt de ceux qui ne lisent pas ou lisent de moins en moins. Telle est la devise de l'association Littera qui organise annuellement depuis 2002 un grand concours littéraire et décerne les prix Magnesia Littera qui sont sans doute les distinctions littéraires les plus prestigieuses de la République tchèque. Les prix décernés aux meilleurs livres publiés en 2016 ont été remis à leurs auteurs mardi 4 avril. Nous allons vous présenter trois lauréats du prix Magnesia Littera dans les catégories de la poésie et de la prose et aussi l'ouvrage qui a remporté le titre du livre de l'année. Le poète Milan Ohnisko entre dans la littérature à l'âge de 36 ans en publiant en 2001 le recueil de poésie intitulé Embrasse le démon. À cette époque, il est déjà riche des expériences d'une vie bien mouvementée. Parti avant la fin de ses études au lycée et puis à l'école de l'information et des bibliothèques, il a été successivement ouvrier, machiniste de théâtre, employé d'une société des eaux et gardien. En 1987, il signe la charte 77 et entre dans la dissidence. Après la chute du régime communiste en 1989, il travaille dans l'édition, collabore avec des journaux et des revues et écrit une poésie pleine d'ironie, d'humour absurde et d'une fausse naïveté. Cependant, dans son dernier recueil, qui vient de remporter le prix Magnesia Littera, le poète a changé de ton. Il avoue s'être assagi.
Oproti předchozím mým sbírkám tato je...
Par rapport à mes recueils précédents, celui-ci est plus fin dans un certain sens. Il y a moins de vulgarisme, il y a moins de sexualité explicite. Tout cela y est quand même, mais plutôt entre les lignes que sur les lignes. On y chercherait en vain les manifestations du nihilisme ou du cynisme. Mon ami poète, dont je ne vous dirai pas le nom, dit que je me suis ramolli. Et je sais exactement ce qu'il voulait dire par là. On aurait beaucoup de peine à trouver dans ce recueil la poétique de l'underground qui pendant longtemps était un des éléments substantiels de mon écriture. L'homme vit, vieillit et évolue d'une certaine manière, et dans le même temps, sa création évolue également s'il crée quelque chose.
Selon le critique Libor Staněk, le recueil de Milan Ohnisko intitulé Světlo v ráně, la lumière dans une plaie, aveugle le lecteur par l'absurdité des activités humaines. Il ne mène pas le lecteur vers la purification, mais éclaire et approfondit encore dans ses vers la douleur invisible qui se cache derrière les coulisses des destins tragicomiques et tordus. Ajoutons pour le lecteur francophone que Milan Ohnisko est un des rares poètes tchèques à être traduit en français. Quelques-uns de ses poèmes figurent dans l'anthologie de Petr Král, la poésie tchèque moderne. Le roman Unava Materialo, l'usure du matériel, a remporté le prix Magnesia Littera dans la catégorie de la prose. Ce texte acerbe, qui ne ménage pas la sensibilité du lecteur, raconte l'histoire de deux garçons obligés de quitter leur pays et de se réfugier dans une Europe qui leur est hostile. L'auteur Marek Šindelka ne situe pas ce pèlerinage plein de dangers et de souffrances dans des pays concrets. Il tient à donner à son récit un caractère universel et cherche à évoquer surtout les sensations de ses petits héros. Il précise.
Je ne voulais pas contribuer par ce livre à une discussion, à un boom médiatique. Seulement, face à cette situation, je sentais presque physiquement un chagrin. J'ai une petite fille et soudain, les affaires de ce genre ont commencé à me toucher beaucoup. J'ai donc décidé d'écrire un livre pour ne faire rien d'autre que de glisser le lecteur dans la peau de ces gens-là. C'est ce dont la littérature est capable. Quand elle est suffisamment suggestive, elle peut vous saisir et vous planter directement dans la situation d'un individu et vous faire vivre cette situation très intimement avec lui.
Pokud je ta literatura dostatečně sugestivní.
L'écrivain explique qu'il voulait surtout décrire les sensations du corps. Le corps qui doit se déplacer, qui commence à peser lourd quand on doit le transporter d'un continent à l'autre. Le corps qui doit se cacher, se comprimer dans l'espace extrêmement exigu d'une voiture. Le corps presque asphyxié qui reprend vie finalement dans un garage crasseux à la périphérie de l'Europe et qui n'est pourtant qu'au début de ses peines. Un des grands thèmes de ce livre est, selon Marek Szindelka, le manque de choses absolument fondamentales comme l'air, le manger, le boire, le sommeil, etc. Le jury du prix Magnesia Litera a constaté que le livre « L'usure de matériel » n'apporte pas, certes, une analyse complexe de la crise migratoire actuelle, mais qu'il oblige le lecteur à s'identifier avec ses victimes qui ont perdu leurs biens, leur sécurité et pour beaucoup leur propre vie. Une histoire crue de l'adolescence est aussi une parabole post-apocalyptique de la destruction de la nature qui entraîne un anéantissement des rapports entre les hommes. C'est ainsi que les jurés de Magnesia Litera ont caractérisé le roman Jezero, le lac de Bianca Belova, qui a remporté la distinction suprême, celle du livre de l'année. L'auteur avoue avoir été inspiré par son voyage au bord de lac d'Aral en Asie centrale, qui est aujourd'hui presque desséché. Ce dessèchement, dû au détournement des fleuves qui l'alimentaient, a provoqué une catastrophe environnementale dans toute la région. Bianca Belova a situé le sujet de son roman dans un paysage qui ressemble beaucoup aux ambiances sinistres du lac desséché. Elle dit à propos de son livre.
C'est l'histoire d'un garçon dans un monde qui se désagrège, l'histoire d'une communauté plutôt traditionnelle qui se heurte à un régime agressif et imposé de l'extérieur. Et le garçon qui grandit dans cet univers s'interroge sur la façon dont il faut aborder ce monde en désintégration.
Bien que le sujet du roman ne se passe pas dans un milieu bien déterminé, certaines situations et certains personnages le situent dans la période que Bianca Belova appelle post-soviétique.
Mes livres précédents ont toujours reflété l'expérience que nous avons de la vie sous la normalisation dans les années 1960, 1970 et 1980. Mais les personnages que j'ai appelés les Russes dans mon dernier livre, personnages que vous considérez comme négatifs, c'est plutôt un symbole parce qu'il me semblait comme très artificiel d'inventer pour eux de nouveaux noms. De toute façon, tout le monde saurait de qui je parle, chacun saurait que je parle des Russes. Je cherche à ne pas confondre et à séparer l'engagement civique et l'écriture, mais une séparation absolue n'est probablement pas possible.
Selon le jury de Magnesia Litera, Bianca Belova a écrit un mythe très personnel, l'histoire saisissante d'une initiation, car le petit héros du livre doit toucher le fond de son désespoir pour émerger finalement à la surface plus fort et plus lucide. 352 livres ont été en lice dans la 16e édition du prix Magnesia Litera. Choisir les meilleurs titres dans cette multitude d'ouvrages n'était sans doute pas une tâche facile. Le chef du jury, Peter Fischer, résume le travail de ses spécialistes et ose même tirer quelques conclusions générales concernant la qualité de la littérature tchèque actuelle.
J'ai l'impression que la qualité des livres présentés dans le concours l'année dernière était un peu inférieure à celle de cette année, où la production a été plus intense, notamment dans la catégorie de la prose. Il me semble qu'il y a chez nous toujours de plus en plus d'auteurs qui vivent avec cette société et ont envie d'écrire sur elle. Et ils désirent écrire non seulement quelque chose pour le moment présent, mais une littérature qui cherche à ouvrir un débat, à ouvrir une nouvelle façon de vivre la réalité. Et dans ce sens, on peut dire que ce sont donc des auteurs engagés.
Merci. Merci à Václav Richter pour sa rubrique littéraire. Ainsi s'achève le programme en français de Radio Prague. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de l'avoir suivi. Passez un bon dimanche et n'oubliez pas que toutes les émissions de Radio Prague sont à trouver sur notre site au www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous via les réseaux sociaux, le Facebook et le Twitter. À très bientôt sur Radio Prague. Au revoir. Thank you.